Marche, écoute.
La vision est pleine.
C'est de tout entendre.
H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins. Les chemins. On est où ?
Ça, c'est la pépinière. La pépinière, c'est la nurserie. C'est où on fait tous les petits bébés plants qui, après, vont être plantés par la suite dans les différentes serres.
On a cette machine, là, qui s'appelle une motteuse, qui nous fait des petits carrés de terreau. Donc, on met du terreau dedans. Et après, on fait une mixture de terreau et d'eau. Et après, il y a un tapis qui avance. Ça fait des petits carrés de mottes de terreau. Et après, on met les petites graines.
Alors, il commence fort, auditeur, auditrice. Je suis avec Fabien, qui est maraîcher dans la commune de Dun, en Ariège. Aujourd'hui, c'est une carte postale sonore un peu spéciale, puisque nous allons non pas marcher dans la montagne, bien qu'ici, c'est un endroit très arboré, avec la rivière à côté qui coule. Le temps est orageux. Et non, j'avais envie de vous proposer une rencontre sonore autour du maraîchage. Quand vous vous servez sur les marchés bio, puisque tu es certifié bio,
ouais.
Que se passe-t-il en amont ? Et c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Fabien, auditeur, auditrice, soyez les bienvenus. Petit son d'ambiance. Tu as combien de serres ?
Là, il y en a 16 au total. Il y a 16 tunnels. Il y a 6000 m² de serres sur la propriété. Et donc, chaque serre est remplie pratiquement en ce moment, vu que c'est la pleine saison d'été, avec les tomates, les aubergines, les poivrons, les concombres, tout.
Combien d'heures passes-tu par jour ? Pour les cultures.
On doit faire du 50 heures semaine en ce moment. Après, là aujourd'hui pas trop parce que ça a été quand même un peu canicule à 35 degrés. Crois-moi que aller travailler dans les serres, il en fait pratiquement 45-50. C'est un peu compliqué.
La serre est comme enveloppée d'une brume. Et on sent l'odeur de la terre mouillée, le pétricole. Et justement, en parlant d'odeur, est-ce que tu as une odeur que tu préfères ?
L'odeur des tomates. J'adore l'odeur des tomates. J'adore ce légume, ce fruit. En plus, c'est un fruit. Et j'aime bien cultiver cette production et j'aime bien le récolter. J'aime bien les récolter. J'aime bien les entretenir parce que c'est long pour les tailler, pour les attacher. C'est assez long, la culture de tomates. Mais j'adore ce fruit.
Est-ce que tu as un rapport affectif avec certaines cultures ou avec certains légumes ? Enfin, affectif est peut-être un grand mot, mais est-ce que...
Oui, c'est le poivron.
Une préférence ?
Ouais, le poivron. Le poivron et la tomate. À l'été, Et l'hiver, j'aime bien cultiver tout ce qui est, tu sais, petites pousses, jeunes pousses de salade, la mâche, parce que j'adore la manger aussi l'hiver, c'est frais, c'est bon. Et donc voilà, et voilà, l'été c'est poivrons, tomates, et l'hiver c'est la petite mâche, les petites pousses, le mescleuse qu'on appelle. On adore faire ça avec Marie sur l'exploitation, là, pour dire ça. Et donc du coup, voilà, on se régale de le manger l'hiver.
En fait, dans ta serre, tu recrées les conditions de la pluie, quoi.
C'est ça.
Et justement, n'es-tu pas effrayé par le manque d'eau? Bon, même si, là, tu arroses, mais bon, ça doit coûter cher déjà.
Ouais. Et... Si, un petit peu. C'est toujours pas évident. Quand on voit, nous, on est au bord d'une rivière qui s'appelle le Docteur, et on voit bien quand même que. Au fur et à mesure des années, le Docteur est de plus en plus bas. On voit qu'on a de plus en plus de restrictions d'eau. Donc il faut faire quand même attention à ça, à l'eau. Après, nous, on a décidé de faire attention donc, aux apports d'eau qu'on mettait sur les cultures. De ne pas trop en mettre, parce que c'est vrai qu'un légume, ça peut être 80% d'eau. Donc de pas trop mettre pour que nos légumes ont du goût. Alors ils n'auront pas beaucoup de poids, mais ils auront du goût. Voilà, donc on travaille sur ça. On utilise beaucoup les gouttes à gouttes. On essaie de fractionner les apports. Et là, depuis par exemple quelques années, j'ai des sondes tensiométriques dans le sol. Ce sont des qui mesurent les apports d'eau que je fais dans les cultures. Donc en fait, ça mesure et la température de l'air et la température du sol. Et combien de, quand j'arrose, l'apport que je mets en eau. Et en fonction de où sont passées ces sondes tensiométriques, donc ça serait dans des. Cette année, je l'ai fait sur des cultures de poivrons et de tomates. Et bien, si tu veux, je vois en fait, avec une courbe d'assèchement, de confort et d'excès d'eau. Ce qui me permet de dire, oula, je mets trop d'eau, ah, je mets pas assez d'eau, ah, je. Là, je suis en excès. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte que les maraîchers, en fait, tous les maraîchers en soi, on mettait trop d'eau dans nos cultures.
Ok. En tous les cas, la technologie s'invite dans le maraîchage. On continue la visite, auditeurs, auditrices. Après donc cette démonstration sonore de l'arrosage.
T'as vu, ils nous disent merci les plantes.
Ouais.
Ah, il a fait tellement chaud aujourd'hui que quand on leur fait un petit arrosage par-dessus, ça leur fait du bien, quoi.
Certains disent que les plantes auraient une forme d'intelligence, en tous les cas de communication entre elles. Qu'en penses-tu ?
Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que on voit, nous, quand on travaille au quotidien avec du végétal, on constate que on voit si elles sont en souffrance. Si elles manquent d'eau, si elles sont en plein épanouissement, si elles sont un peu rabougries, on va se dire, mais ah, il y a un problème. Et ouais, et en fait, on soulève et on constate qu'il y a des ravageurs, des insectes, des pucerons, par exemple, qui sont en train de gentiment lui sucer la sève pour pomper le miel là, et voilà. Donc du coup, on constate ça, oui, un échange, et puis on voit là... En fin de journée, c'est toujours les plantes sont épanouies. Elles peuvent être en protection l'après-midi. Et parce qu'il fait chaud, donc elles se protègent. Et là, le soir, eh bien, hop, elles se relèvent, elles s'épanouissent, les feuilles se redéveloppent, les fleurs aussi se rouvrent. Et donc du coup, oui, il y a une certaine forme d'intelligence. Moi, j'ai toujours voulu tester la musique dans les serres, que j'ai jamais eu le temps de faire. Mais je suis sûr qu'avec de la musique, je suis sûr qu'il peut y avoir des réactions ou autres.
Voici le son d'une serre. C'est à l'intérieur, dans ce tunnel. L'acoustique est vraiment différente qu'à l'extérieur. Je promène vos oreilles à travers la serre et là, c'est la sortie. Alors, Fabien, c'est ton légume préféré, là. On est dans la serre des poivrons.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a une odeur.
T'as vu cette odeur qu'il y a? Cette odeur de poivron qu'il y a? Ça, j'adore cette plante. Elle est magnifique. Elle est élégante. Elle est belle. J'adore ce fruit. J'adore le manger. Et du coup, après, c'est une plante sensible. C'est peut-être ça qui me plaît. C'est parce que c'est une plante qui est difficile à produire l'été et qui est assez délicate, qui est assez caractérielle, qui est assez aussi victime des ravageurs. Parce que comme c'est très sucré, les pucerons l'adorent et on peut vite se faire bouffer les plantes par les pucerons. Donc du coup, il faut toujours être vigilant. Et voilà, mais avec de la vigilance, on arrive à avoir des super belles plantes. Donc les pucerons, on utilise des insectes, ouais. Par exemple. Ici, sur l'exploitation, on n'a jamais fait de traitement contre le puceron. J'ai toujours utilisé ce qu'on appelle la lutte biologique, c'est-à-dire introduire des insectes chaque semaine pour... combattre les pucerons et tout. Et tu vois là, on a une petite coccinelle. Hop, elle est là. Elle est contente.
D'accord.
Elle a bien mangé, elle est au repos. Et si on fait le tour de toute la serre, on peut voir plein d'insectes. Ça va être la période, là, ça va être l'heure, ça va être la période de la, comme on dit, de la guerre. Où là, tous les ravageurs se font attaquer par les insectes qu'on a introduits. Et ce qui nous permet d'avoir des cultures magnifiques. Et un équilibre, voilà, entre nous et la plante aussi. Et je pense qu'elle nous le rend bien.
Et qu'est-ce qui t'a donné l'amour? Parce que tu en parles très bien. Qu'est-ce qui t'a donné l'amour des plantes, de la culture?
C'est une grande histoire, ça fait longtemps que je fais du jardin en fait, du jardin potager, tu vois, ça soit au début familial et après en fait quand il a fallu que je me dise qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, quoi, projet professionnel, et en fait je voyais bien que ce métier là il était fait pour moi, quoi. Donc du coup je suis parti de la maraîchage. D'un jardin familial de 1000 mètres carrés, je suis parti sur 3 hectares, sur ouais. 30 000 mètres carrés.
Il y a quand même une histoire de transmission.
Ouais.
On continue?
Ouais.
Ben je marche à tes côtés. On se croirait, c'est un climat tropical, hein, on se croirait. Hein.
Ah ouais, c'est clair.
En plus, il y avait les cigales.
C'est clair, t'as vu, regarde. Ouais.
Ah oui, alors le son du poivron. Ça, c'est du poivron.
Je t'ai vu. C'est un poivron familial, quoi.
D'accord.
Il y en a différentes sortes, tu vois, on a des carrés, des grands carrés longs, on a des pointus aussi, ce qu'on appelle des cornes de taureau, c'est la variété. Et là-bas, à côté, on a les petits padrones, tu sais, les padrones qu'on utilise dans les tapas en Espagne.
Dans les tapas en Espagne, ouais, avec de l'huile d'olive.
Ah ouais, c'est top, avec de l'huile d'olive, là. Ouais. Faudrait qu'on fasse une émission, on pourrait faire rissoler les poivrons.
Juste la serre à côté des poivrons. Et là, auditeur, c'est une allée de... Elle fait quoi, cette allée? 20 mètres 20 mètres 40 mètres, pardon. 40 mètres, des pieds de tomates qui font 2 mètres d'eau. Et tout rouge, quoi. En contrebas des pieds, des grosses tomates belles, rondes.
C'est le fruit de l'été aussi, quand on se fait l'été. Quand les premières tomates mûrissent, on sait que c'est les premiers légumes d'été. J'aime bien son goût. Elle est utilisable pour tout. On peut faire aussi bien salade, qu'en faire des tomates à la provençale, ouais. Que faire la sauce tomate.
Je trouve que dans ce que tu dis, tu es très lié au goût.
Ouais.
Il y a la culture,
ouais.
Et le goût.
Ouais.
Ce qui fait que tu es totalement, je suppose, détaché de la culture intensive, ouais. Pesticides, etc.
Tout
etc.
à fait.
Et quel regard, justement, portes-tu sur ces grosses multinationales?
J'ai jamais voulu créer de guéguerre avec ça, tout ça. Je trouve ça aberrant qu'on puisse... après, on est dans ce mode de production, et politiquement surtout, où il faut produire, qui ça sert à rien. Nous, on fait, quand je me suis installé, j'ai toujours voulu faire de l'agriculture bio pour montrer que je veux donner du goût, faire des produits qui ont du goût, qui aient de la matière. Et en fait, sur les marchés, c'est ce qu'on nous rend en échange, quoi, les clients.
Mais ouais, t'as vu cette serre.
C'est nos amis qui, eux, viennent butiner toutes les fleurs des tomates pour qu'on ait après des super belles tomates comme ça. C'est eux qui font le travail.
Thank you. présent, nous sommes à l'extérieur de la serre. Une bonne terre meuble, granuleuse. Les plantations de salade. Et tu en as combien de variétés de salades là, sur, dans ce champ?
Il y en a 4-5 variétés. On fait beaucoup de batavia, blonde, rouge. Après on fait un peu de la sucrine. On fait de la romaine. Et on fait cette variété là, toute dentelée, là, toute bizarre, qui s'appelle de la cressonnette. C'est une vieille variété de salade. Voilà. Et donc voilà, du coup, on ne fait pas 10 000 variétés non plus. On fait les variétés plus courantes. On en plante 800 chaque semaine. On fait un marché, nous, sur la région toulousaine, périphérie toulousaine, tu vois. Et on a été obligé. En fait, quand on s'est installé. Il y a 15 ans, on a fait le marché, donc on a commencé à 2009. Et 2009, si tu veux, les gens, déjà, voir un couple jeune, ne pensaient pas que c'était nous les producteurs. Et en fait, on faisait de l'éducation aux gens sur le goût, sur la saisonnalité. On nous demandait des tomates en décembre, en janvier, tu vois. Et donc, du coup, il a fallu refaire une éducation à des gens qui auraient pu être nos parents. Et en fait, ça a permis de tisser les gens se sont posés des questions, quoi. C'est vrai que, ouais, ok. Bon, ils avaient l'habitude d'avoir de tout le temps. Et voilà. Et donc, quand tu leur parles de saisonnalité, de goût, donc ouais, le bio ça va être un peu plus cher, mais quand on voit les retours qu'on a sur c'est trop bon, etc., ben, les gens ils se posent plus de questions après. Les gens aussi, quand ils ne voient pas le boulot qu'on fait, et quand ils viennent visiter l'exploitation, parce que moi la ferme est ouverte à tout le monde qui veut la visiter, là ils changent tout de suite de fusil d'épaule, ouais, par rapport au temps que vous y passez, le prix que vous vendez, bon ben voilà quoi. Donc non, c'est intéressant ce lien-là. C'était étonnant parce que c'est vrai qu'on avait l'impression d'être deux mondes.
Ouais. Et ça t'aide, ça t'encourage, parce que je suppose qu'il y a des moments où tu es très fatigué.
Enfin, oui, tout à fait. Ouais.
Quand tu fais 50 heures par semaine.
Oui, puis il y avait la chaleur, le stress, parce que c'est un boulot quand même assez stressant, moralement, quoi. Physiquement certes, mais moralement aussi, parce que tu es en fait... C'est un métier assez chronophage, quoi. Tu es tout le temps, il faut semer des salades, il faut planter des salades pour avoir des salades pour nos clients. Les tomates, on a visité la belle serre de tomates, mais c'est toutes les semaines qu'il faut penser à aller les nettoyer, à les tailler, sinon ça serait la jungle, tu vois. Et chaque culture est a son petit caractère, a ses petites contraintes. Donc en fait, on est tout le temps... à penser, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, faire ci. Et on ne s'arrête jamais. Le dimanche, il faut venir arroser.
Ouais. Tu pars pas en vacances, etc., etc.
Non, mais c'est beau, hein. C'est beau, ça me plaît. Moi, tu sais, j'ai vu sur les clients du marché, les retours qu'on a, déjà, c'est super satisfaisant. Puis moi, j'ai vu des clientes enceintes, tu vois. Puis après, j'ai vu l'arrivée du petit et l'évolution des petits, quoi. Et on a des enfants qui viennent chaque semaine sur notre banc avec leur maman. Et voilà, on a vu toute cette évolution-là.
La transmission.
Et les enfants, ils sont en bonne santé, tu t'en rends compte?
Ouais, le moment préféré du maraîcher?
Alors, le moment préféré du maraîcher, c'est souvent quand il n'y a plus rien à faire. La saison creuse. Non, c'est aussi quand on vend. Moi, j'aime bien vendre. Parce que quand on voit que notre production part et qu'on a des super retours de la part des gens, eh bien, en fait, c'est une satisfaction. Et c'est mon moment préféré, c'est mon moment d'électation. Parce que, hormis le boulot, le travail difficile, eh bien, on fait plaisir à des gens. Quand les gens nous disent, juste cette anecdote-là, mais ça nous rappelle les légumes du jardin de nos grands-parents, tout simplement. C'est beau, ça donne tant de ça. Mais quelque part, c'est dommage. C'est beau parce que c'est satisfaisant pour toi, mais c'est dommage qu'en 2023 ou 2024, on entende ça.
Je pense que ton travail est une forme d'acte politique et de résistance.
Ouais. Tu vois, quand il y a eu cette période de Covid avec le confinement et tout ça, les marchés, nous, ont été arrêtés chez nous. Donc, il a fallu trouver des alternatives. Je livrais des paniers et en fait on avait tellement de demandes, mais de partout, qu'on avait l'impression qu'on était comme les infirmiers. Je me rappelle à Toulouse quand j'ai livré les paniers, je me fais arrêter par la police pour les contrôles, les fameux contrôles, puis voit le camion, il me dit « Ah, vous livrez des légumes ?» J'explique la situation. Ils m'ont fait presque une escorte pour me ramener jusqu'au périphérique. Tu vois.
Pour terminer, ton lien en général avec la nature?
Je ne sais pas, c'est assez intense. Moi, je suis plutôt terre, un élément, je crois que je suis terre. Je suis très ancré, je ne peux pas... J'aime bien aller à la mer, mais je ne m'y baigne pas. Je ne suis pas fait pour vivre à la mer. Par contre, j'aime la montagne, j'aime aller marcher. Alors j'espère que j'aurai plus de temps pour aller marcher et faire de la randonnée, parce que j'adore la randonnée. La terre.
En tous les cas, merci pour cette visite intuitive, pédagogique. Il faut, auditeur, auditrice, donc privilégier les circuits courts, quoi.
Ouais.
Voilà. Hein. S'adresser à un maraîcher, aller au marché dans la mesure de vos possibilités, plutôt que prendre une barquette de légumes sous un emballage plastique.
Ouais. Et surtout prendre soin de notre planète et penser que voilà, on n'est rien sur notre planète. Voilà, la nature peut tout contrôler. C'est ce qui nous arrive, et nous, c'est pour ça.
Si vous voulez, auditeur, auditrice, le trouver, il faut aller dans la petite commune de Dun. Et c'est une ferme certifiée bio.
La vente directe, c'est quel jour à la ferme?
Tous les vendredis, vente directe.
De 16h30 à 18h30.
En Ariège. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.